Bonjour. Nous voilà déjà rendus à la quatrième partie de cette première étape où je vous rappelle que cette partie est consacrée à déconstruire l'évidence scolaire. Parce que, évidemment, on est né dans des sociétés où l'école fait partie de notre vie, nos parents ont été à l'école, nous on a été à l'école, nos enfants, à l'évidence, doivent aller à l'école, etc. Alors, depuis la première vidéo, on déconstruit un petit peu tous les paramètres de cette évidence scolaire en essayant de montrer dans quelle mesure l'école est loin d'être juste quelque chose qui va de soi. Aujourd'hui, je voudrais insister sur l'idée de finalement, si ce n'est pas les enfants qui ont inventé l'école, finalement, si ça ne correspond pas vraiment à leur nature, que ça ne répond pas à leurs besoins, que c'est pas une évidence. Alors, finalement, à quoi sert l'école? Voilà, un peu, quel est le programme caché de l'école, le curriculum qui est inavoué et dont on se retrouve finalement les dépositaires, alors même que l'on n'a pas vraiment cherché à l'acquérir. L'entreprise de l'école, disons-le tout simplement, tout nettement, est une entreprise de conformité. La société industrielle, autant que les États-nations, ont toujours eu besoin de citoyens, d'ouvriers, d'employés conformes. Je vous rappelle que les États sont assez récents, hein, finalement, dans l'histoire de l'humanité. Si on prend les pays européens, par exemple, mais ça pourrait être d'autres pays. Les États-nations telles que nous les connaissons, avec les frontières telles que nous les connaissons, sont très très récentes. Elles datent souvent du début du siècle, du 20e siècle en fait. Hein. Donc on vit dans des pays qui ont à peu près 100-150 ans. En tout cas, si on regarde les frontières actuelles de la France, on pourrait revenir à 1945, finalement, au moment de l'Alsace-Lorraine, ou à 1962, au moment de l'Algérie française, etc. Donc, on nous retrouve avec des. Et si on prend la Norvège, qui est un pays qui a été créé finalement en 1907, si on prend l'Allemagne, qui était la Prusse avant, donc on se retrouve avec des pays assez récents, et ces pays ont été des conglomérats de peuples. La France, c'est encore plus vrai que dans d'autres pays. Il y avait une quantité incroyable de langues régionales, de cultures, etc. Mais c'est vrai également pour des pays comme le Maroc ou l'Algérie, où là, il a fallu créer, à des fins souvent militaires, disons-le, un sentiment national. Il fallait pouvoir dire aux gens, sois fier d'aller te battre pour ton pays. Mais souvent, les gens, qui vivaient dans les montagnes, qui vivaient dans des zones linguistiques, qui vivaient dans des endroits où les services de l'État ne se rendaient pas, avaient du mal à se dire que finalement, la France, le Maroc ou l'Allemagne étaient vraiment leur pays. Alors on a créé cette institution, l'école, pour donner du sentiment national. Donc, avec cette conformité, hein, de pensée, où on se disait, ben voilà, voilà notre histoire commune. Si on prend évidemment la France, on va dire, tout a commencé, Clovis, Charlemagne, etc. Mais évidemment, si on regarde les Basques, si on regarde, je ne parle même pas de la Nouvelle-Calédonie ou de la Guyane, mais on voit que c'est des histoires fabriquées de toutes pièces. Mais pourquoi pas, on peut comprendre l'intérêt de fabriquer du sentiment national. Et en même temps, il fallait fabriquer de l'obéissance, tout simplement, de l'obéissance pour répondre aux besoins de la société industrielle. On ne voulait pas des hommes, des femmes qui soient des libres penseurs, des philosophes, qui prennent en main leur vie, etc. Non, on voulait des gens qui s'insèrent dans ce que des plus puissants, des plus riches, des banquiers, des industriels, avaient prévu comme genre de société, et il était intéressant que les gens puissent s'y conformer. Alors l'enfant à l'école, apprend la conformité. Je me souviens, pour faire une petite parenthèse, que quand j'ai fait l'armée, puisque j'ai fait l'armée à l'époque où c'était encore obligatoire, il y avait une période que l'on appelait la période des classes. Ça durait le premier mois. Et là, pendant ce premier mois, On nous apprenait à obéir. Alors on nous faisait faire à peu près tout et n'importe quoi. On nous réveillait à 2 h du matin pour aller chercher une brosse à dents. On nous faisait courir dans la boue, n'importe quoi. Enfin, le but n'était absolument pas d'apprendre à courir dans la boue. Le but était de dire, voilà, quand on te donne un ordre, ça te coûtera toujours moins cher d'y obéir que de le contester. Voilà. Et cette période-là, à l'armée, s'appelle les classes. Donc, vous voyez, on n'invente rien. Alors, les classes des enfants durent extrêmement longtemps, une quinzaine d'années, où on va leur apprendre à se conformer à des groupes, à des décisions collectives. On va toujours nous dire que les enfants sont au centre du système, mais en fait, ils vont tout simplement en occuper la partie la plus... La plus basse. Alors, quand on discute de ça avec des enseignants, quand on discute de ça avec des directeurs d'école, en fait, ils le savent, hein, que c'est ça. Et quand on leur dit, mais pourquoi vous ne respectez pas les rythmes? Et si un enfant a besoin de faire une sieste? Et si un enfant a besoin de dormir plus le matin? Ou si un enfant n'a pas faim au moment où vous avez décidé qu'il devait avoir faim, mais que lui, sa faim, c'est autour de 11 h et non pas midi, ou etc., etc., ou de 1 h et non pas midi. On nous répond toujours, ah ben oui, mais quand on en a 50, 60, 100, 300 à gérer, comment vous voulez qu'on fasse? Là, on est obligé de donner des consignes générales auxquelles tout le monde se conforme. Alors là, on se retrouve dans cette position de dire, mais moi je pensais que c'était un institut d'éducation. Donc si chaque fois qu'on parle éducation, on nous répond gestion, alors évidemment, le jeu n'est plus tout à fait le même. Éduquer quelqu'un, tenter de l'éduquer ou lui donner un environnement éducatif, n'est pas tout à fait la même préoccupation que gérer quelqu'un. Et notamment, pas gérer quelqu'un, mais gérer des groupes, gérer des ensembles d'enfants. C'est pour ça qu'on va les mettre par date de fabrication, hein. On va classer les enfants par âge. Ça correspond à une logique industrielle. Leur inculquer finalement l'art de se déplacer ensemble, de faire les choses en même temps, d'avoir faim au même moment, d'être fatigué au même moment, d'avoir des activités au même moment, etc. Et donc, mon propos n'est pas de dire que chaque individu peut vivre en dehors de tout collectif, de toute société ou de tout sentiment national ou identitaire. Évidemment, on a tous besoin d'avoir des repères et de se raccrocher à quelque chose de visible. Et le fait d'avoir le sentiment de faire partie d'une communauté peut être, ma foi, pourquoi pas acceptable et même, pourquoi pas bénéfique. Mais là, cette société-là, c'est une société non choisie, organisée d'une façon dans laquelle l'enfant ne peut participer, il ne fait que la subir finalement, et où il va se faire taper sur les doigts, se faire punir, voire se faire renvoyer, s'il ne suit pas les consignes, de cette communauté, de cette façon d'organiser la vie. On a développé dans les écoles tout un langage édulcoré pour ne pas dire que l'enfant est en réclusion sous les ordres de quelqu'un qui le domine, etc. On va avoir au contraire tout un langage, l'enfant n'est jamais, par exemple, ne sera jamais puni, il va être en rattrapage. On va toujours dire que l'enfant a la possibilité de faire des projets, là où en fait il a l'injonction de faire des projets. Et puis les projets, il va falloir qu'ils les fassent à l'heure prévue, c'est-à-dire le lundi, entre 10 h et midi, et selon la méthodologie expliquée par le professeur, avec les objectifs, les moyens, etc., etc. Donc, alors que, évidemment, il y a 1 000 façons de mener des projets, et un enfant, concrètement, on y reviendra sur ces notions-là, mais un enfant, lui, ne fait jamais des projets. Il a envie de créer un jeu, il a envie d'aller courir dans l'herbe, il a envie. Alors, on peut toujours traduire ça avec un vocabulaire de projet, mais en fait un enfant, il a juste envie de courir, de chanter, de danser, de créer, etc., etc. Ce vocabulaire masque toute l'oppression dont on a déjà parlé, écologique, que j'ai qualifié d'écologique, et qui va permettre en fait une mise en conformité à peu près totale Et la mission de l'école, finalement, est remplie. On va dire que 95% des gens qui sortent de l'école pensent qu'il est important d'aller voter. 95% des gens qui sortent de l'école vont avoir un sentiment national, vont se sentir français, anglais, marocain, canadien ou je ne sais quoi. 95% des gens qui sortent de l'école ont intégré l'idée que dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, qu'il y a toujours des chefs, qu'il va falloir s'insérer dans une société. Plutôt que d'essayer d'être créatif et de voir comment notre énergie peut être créative et plutôt que de voir la société, la vie comme un espace possibiliste dans lequel on va pouvoir s'épanouir, on voit finalement une société qui est ce qu'elle est, avec les règles telles qu'elles sont, et dans laquelle le mieux faire, c'est de s'insérer sans trop la déranger et sans trop créer de conflits à l'intérieur de ça. Et donc quand on arrive à avoir un emploi, à décrocher un emploi, on arrive à se dire enfin j'ai un patron, j'ai un chef, et bien voilà, la mission de l'école est accomplie. L'enfant saura qu'il peut s'inscrire dans cette société de façon conforme, sans la déranger, et à partir ben voilà, la vie continue et la société se perpétue. Et donc ceux qui avaient le pouvoir le gardent, ceux qui n'en avaient pas continuent à ne pas en avoir, et ainsi de suite. Donc c'est la reproduction standard. Bourdieu en a longuement parlé de cette reproduction-là. Et l'école, loin de lutter contre les inégalités, bien au contraire, les perpétue, quoi. Voilà, donc on a beau avoir tout un vocabulaire, comme je le disais, de liberté, d'épanouissement, d'autonomie et tout ce qu'on peut entendre dans les écoles, à la seconde où un enfant va faire quelque chose qui n'est pas prévu par les autorités, qui n'est pas prévu, qui n'est pas planifié, qui n'est pas encadré, qui n'est pas souhaité par l'adulte, eh bien il ne pourra juste pas le faire. Donc on voit dans les écoles des enfants, par exemple, on voit des photos où des enfants se sont déguisés, on fait une pièce de théâtre, alors là, on a l'impression que waouh, c'est super, mais en fait, tout ça, c'est fait avec l'autorisation, sous la direction et dans le cadre défini, organisé, autorisé par l'adulte. Voilà. Donc, ça donne cette image que l'école est un espace de liberté, mais en fait non, jusqu'à l'université d'ailleurs, la conformité est exigeante. Et d'ailleurs, plus on monte dans la hiérarchie scolaire, et plus cette conformité est nécessaire. En fait, c'est un système pyramidal, et donc le seul moyen d'arriver tout en haut de la pyramide est de se maintenir au centre. Et plus on est sur les côtés, plus on est éjecté vite. Un petit peu, si on prend une hiérarchie ecclésiastique, si on prend catholique par exemple, si on est un curé de campagne et qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec le pape, c'est pas très grave parce qu'on a quelques paroissiens et puis voilà. Mais quand on est archidiacre au Vatican, bien sûr, il faut être complètement collé, conforme au discours du pape, quoi. Donc là c'est pareil, plus on monte dans la hiérarchie et plus le niveau de conformité est exigé. Donc pour avoir évidemment passé par le processus doctoral et tout ça, je sais très bien qu'on exige de nous, on va nous donner éventuellement les clés d'une classe universitaire. À partir de là, on veut bien s'assurer qu'on va se comporter et continuer à faire vivre le système tel qu'il est, parce que les gens qui nous donnent les clés n'ont absolument pas envie d'être remis en question. Donc on veut bien te donner les clés de la maison, à condition que tu y fasses exactement ce qu'on aurait fait nous si on avait été à ta place. Voilà, donc c'est un peu comme ça que la conformité finit par se perpétuer, et puis on va avoir des gens qui font tout leur système scolaire, passent à l'université, ils deviennent enseignants, ils font le tour du bureau, voilà, ils passent d'élèves à maîtres et ils continuent dans cette école-là et qui sont rendus à peu près incapables de remettre en cause cet état des choses. Donc voilà ce qu'apprennent, voilà quelle est la mission en fait de l'école finalement, Et il n'y a pas vraiment à en redire grand-chose, puisque c'est une mission qui, la plupart du temps, est parfaitement assumée, parfaitement remplie. Et on se retrouve avec des gens qui sortent assez conformes à ce que la société veut d'eux. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, donc, encore une fois, c'est un sujet sur lequel on peut être amené à réfléchir en tant que parents, de dire, ben moi, quand je parle à mes enfants, quel est le degré de conformité que je leur exige quand je suis avec mes enfants, comment je me comporte, qui fait que on fait pas ça, soit poli, etc., etc. Bien sûr, on a des codes sociaux puisqu'on vit ensemble. Mais voilà, quelle est la part de liberté que je leur laisse, où est la marge? Voilà, c'est toutes ces questions qui nous intéressent et qui vont vraiment nous amener encore plus loin dans ce voyage en piraterie éducative. Merci.